Autour de la Bible, autour de la parole de Dieu, parce que c'est l'élément central de nos rencontres, voyez, ce livre formidable au travers duquel Dieu en personne nous parle. Alors je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 2 et au verset 1er. Voilà, l'évangile de Marc, le chapitre 2 et le verset 1er. Voici ce qui est écrit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes, c'est-à-dire des hommes religieux, n'est-ce pas, qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé ? » C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus facile ? Te dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, pardon, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Voilà, j'ai remarqué, peut-être vous l'avez noté vous aussi, que dans les chants que notre ami Michel a conduit, il était souvent question du pardon des péchés. Ben, ça tombe bien. Je crois que c'est pas un hasard, n'est-ce pas? C'est la direction de Dieu, certainement. Parce que c'est de ce sujet-là, de ce thème-là, que j'aimerais vous entretenir cet après-midi. Dans le texte qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, il est question, là, d'un homme qui est dans un triste état puisqu'il est paralytique, il est grabataire, là, il ne peut se déplacer pour cause, et voilà que quelques-uns de ses amis, eh bien, se mettent d'accord avec beaucoup de compassion, de sympathie pour le conduire vers Jésus, afin que Jésus, qui était et qui est toujours un faiseur de miracles, le guérisse de son terrible mal. Et lorsqu'on amène cet homme en présence du Seigneur, lorsqu'on l'introduit dans la présence de Jésus, la première parole que le Seigneur adresse à cet infirme, à ce malade, c'est celle-ci, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. » Alors, je voudrais vous mettre à contribution cet après-midi. Je ne veux pas simplement que vous soyez des auditeurs silencieux, mais que vous soyez un petit peu réactifs. Pourquoi, d'après vous, Jésus a-t-il adressé cette parole à cet homme? Allez, répondez. Oh, vous êtes réveillés, ça va? Pourquoi Jésus a-t-il adressé cette parole à cet homme? Oui, il était pécheur. C'est bien, c'est une bonne réponse, mais j'attends autre chose. Parce que, manifestement, vous en conviendrez, cet homme n'était pas venu pour ça. Oui, mais justement, il était venu pour être guéri. Il avait la foi, certes. Mais pourquoi Jésus lui a-t-il commencé par ça? Voilà la bonne réponse. C'est parce que le plus grand, le plus urgent des besoins pour cet homme, mais aussi pour vous et pour moi, c'est que nous recevions, nous les humains, le pardon de nos péchés. Et Jésus commence toujours par l'essentiel. Alléluia. Notez ceci, nous y reviendrons par la suite, c'est que Jésus ne s'est pas désintéressé du problème de santé de cet homme, puisque par la suite, gloire à Dieu, il a été guéri, il a été l'objet d'un miracle instantané et tout à fait remarquable de la part du Seigneur, et il est reparti droit sur ses pieds alors qu'il était arrivé, n'est-ce pas, couché sur son grabat. Mais si Jésus a dit à cet homme, tout d'abord, dans un premier temps, première parole qu'il lui a adressée, tes péchés sont pardonnés, c'est parce que c'était là le plus grand, le plus urgent de ses besoins. Et chers amis, il en va de même pour chacun d'entre nous. Peut-être vous êtes venus cet après-midi avec vos soucis, avec vos fardeaux, avec vos problèmes. Qui n'en a pas, des soucis, des fardeaux, des problèmes? Il peut s'agir de problèmes de santé, comme pour cet homme. Il peut s'agir de problèmes moraux, affectifs, familiaux, matériels. Dieu sait que la liste des problèmes, des difficultés que nous pouvons traverser sur la terre est grande. Mais je voudrais vous dire que Dieu ne se désintéresse pas de tout cet aspect-là, mais votre plus grand besoin, votre plus urgent besoin, c'est que vous receviez de la part de Dieu le pardon de vos péchés. Mais au fait, on pourrait se poser une autre question. Être pardonné de ses péchés, en quoi cela consiste-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Eh bien, voyez-vous, quand Dieu pardonne nos péchés, ça signifie qu'il nous fait grâce, qu'il nous fait miséricorde. Autrement dit, pour être clair, qu'il renonce à châtier, à punir le coupable qui pourtant le mérite. Et le coupable en l'affaire, savez-vous qui est-ce? Eh bien, c'est vous et c'est moi. Nous sommes coupables, je suis coupable, comme cet homme de notre histoire l'était, parce que nous avons tous, mais tous alors, désobéi au commandement de Dieu. Et la Bible nous dit très clairement que le péché, c'est ça. Le péché, voyez, c'est pas un terme, c'est pas un mot que des théologiens farfelus ont inventé, mais la Bible nous dit que le péché consiste à désobéir à la loi divine, au commandement de Dieu. Et ça, mes amis, que nous le voulions ou pas, que nous l'admettions ou pas, nous l'avons tous fait et nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Mais quand Dieu nous pardonne, justement, eh bien, cela signifie, je le répète, qu'il renonce à châtier, à punir le coupable que nous sommes, comme pourtant nous le mériterions. Donc voyez-vous, le pardon, ça n'est pas un dû, c'est au contraire une faveur imméritée. Ça ne résulte pas de nos efforts, ça ne résulte pas de nos mérites, de nos tentatives, non, au contraire, le pardon que Dieu nous accorde est absolument gratuit. On ne peut pas payer le pardon que Dieu nous propose, c'est un cadeau reçu de Dieu. Et cet après-midi, je suis heureux de vous dire que ce cadeau, Dieu est désireux de vous l'accorder. Alléluia. Ce serait, excusez-moi l'expression, ce serait sot, ce serait, allez, disons-le carrément, stupide de se priver par inadvertance d'un cadeau que Dieu serait en mesure, que Dieu est, n'est-ce pas, tout disposé à nous accorder. Vous savez, quand Dieu pardonne, eh bien, c'est un pardon absolu. C'est quelque chose qui est définitif. Quand Dieu pardonne, il ne reviendra plus jamais sur la question, il ne nous reprochera plus jamais nos péchés, il les anéantit, il les détruit, il les oublie définitivement. La question est réglée. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Nous pouvons, vous et moi, Et nous avons certainement commis des choses dans notre vie dont nous ne sommes pas très fiers. Et peut-être quand nous y pensons, quand nous réfléchissons à cette triste affaire, nous nous disons, mais si seulement cela ne s'était pas produit, si seulement j'avais été un petit peu plus sensé, un petit peu plus intelligent, si seulement je ne m'étais pas fourvoyé dans cette mauvaise direction, si seulement le mal que j'ai commis, je ne l'avais pas commis. Mais voilà, ce qui est fait, et je n'y puis rien changer. Mais mes amis, quand Dieu pardonne, eh bien, il passe sur notre vie et il fait en sorte que cette triste affaire soit définitivement effacé, c'est comme si ça ne s'était jamais produit. Dieu va jusque-là. Il anéantit, même dans son propre souvenir, eh bien, la réalité de nos péchés passés. Un homme de Dieu dans la Bible, il s'appelait Ézéchias, c'était un roi qui a fait une expérience remarquable. Tout roi qu'il était, vous savez, il était pécheur lui aussi, comme tout un chacun. Ézéchias dira, Seigneur, mes péchés, tu les as jetés derrière ton dos. Alléluia. Tu les as jetés derrière ton dos. Comme quelque chose dont on veut se débarrasser définitivement. Un autre homme de la Bible, un prophète, le prophète Michée dira que nos péchés, Dieu les a jetés au fond de la mer. Et comme ils sont lourds, comme ils pèsent lourd, ils ne sont pas prêts de remonter à la surface. Ils sont enfouis au cœur des mers. Ils sont terminés. L'affaire réglée. Ça, voyez, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Alléluia. Car Dieu nous aime. Savez-vous que Dieu vous aime? Oui, la Bible dit que Dieu est amour. Et quand la Bible fait référence à l'amour de Dieu, sachons ceci, c'est que Dieu n'aime pas des gens purs, dignes, vertueux. Mais quand Dieu déclare qu'il nous aime, ça veut dire qu'il aime des pécheurs. Il aime des pécheurs. Malgré tout le mal que j'ai pu faire dans ma vie, excusez-moi de vous parler avec autant de franchise, malgré le mal que vous avez pu commettre tout au long de votre existence, Dieu n'approuve pas, tout au contraire, il désapprouve formellement le mal que vous avez commis, mais le mal que vous avez commis ne l'empêche pas de vous aimer. Il vous aime malgré tout. Il vous aime en dépit de tout, il vous aime au plus haut point. L'amour, c'est dans la nature même de Dieu. L'Écriture nous dit, je viens de citer cette vérité, c'est que Dieu est amour. Il y a un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui est tout à fait remarquable, où Dieu va, comment il faut dire ça, en quelque sorte décliner son identité, voyez ? Voilà, cet événement s'est passé sur la montagne du Sinaï, il y a bien longtemps. Moïse était en présence de Dieu. Dieu était descendu sur la montagne du Sinaï. Et à un certain moment, Moïse a fait monter cette prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Alors, en réponse à la prière de Moïse, la Bible dit que, eh bien, Dieu a fait passer toute sa gloire devant cet homme, devant ce prophète. Et l'Éternel a proclamé son nom. Et il dira, entre autres, beaucoup de choses. Je passe sur certains détails. Il dira, il se définira lui-même en disant qu'il est le Dieu qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? L'iniquité, c'est ce qui est contraire à la justice. Et vous et moi, dans notre vie, nous avons tous commis des actes. Nous avons prononcé des paroles, nous avons même eu des pensées ou des sentiments qui étaient contraires à ce qui était juste. C'est l'iniquité. Eh bien, Dieu pardonne l'iniquité. La rébellion, c'est un état de révolte contre Dieu. Peut-être parmi nous, cet après-midi, y a-t-il des hommes, des femmes qui un jour ont tendu le poing contre le ciel. Vous étiez en révolte, vous étiez en guerre ouverte contre Dieu. Eh bien, même ça, voyez, Dieu le pardonne. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ce pardon que Dieu offre est possible même pour les plus grands pécheurs. Non pas simplement pour ceux qui ont commis quelques petites bêtises de quatre sous, mais même pour les plus grands pécheurs. Il y a un homme dans la Bible, j'ai lu son histoire, et d'autres l'ont fait avec moi, n'est-ce pas, qui était vraiment épouvantable. C'était un roi, lui aussi. Il s'appelait Manassé. Et la Bible nous montre que cet homme, il a fait, comme on dit vulgairement, pique-pan, vous voyez. Il s'est adonné à toutes sortes d'aberrations, un comportement particulièrement misérable. Il s'est adonné à la magie, à la divination, à l'astrologie, chose que Dieu désapprouve formellement. Il a rempli le pays de toutes sortes de crimes. Il a été idolâtre. Il s'est livré à des sacrifices humains. Enfin, vraiment un homme infect. Un homme dont on aimerait se débarrasser. Et les conséquences de sa faute sont intervenues. C'est que les ennemis ont envahi le territoire dont il était le roi. Ils ont enchaîné le roi Manassé et ils l'ont amené en déportation, très très loin de son pays. Et là, Manassé, tout roi qu'il était, s'est retrouvé dans les fers, lié de chaînes, en prison. Et l'Écriture nous dit, voyez, que lorsqu'il fut dans la détresse, eh bien Manassé a imploré Dieu et il s'est humilié profondément devant Dieu. Autrement dit, il a confessé ses fautes. Autrement dit, il s'est repenti de ses erreurs. Autrement dit, il a sollicité la miséricorde, le pardon de Dieu. Et Dieu a fait grâce à lui. Dieu l'a pardonné, l'a ramené dans son royaume et l'a rétabli sur son trône. Quelle grâce! Un homme dont on n'aurait pas donné cher. Un homme qui était le plus mauvais d'entre les humains. Eh bien, Dieu a pardonné. Que dire? Nous pourrions parler aussi de cette femme qui est venue un certain jour pleurer aux pieds de Jésus. Oh, c'était une femme qui avait fait commerce de son corps, une femme pécheresse. Jésus prenait un repas chez un dignitaire religieux qu'il avait invité. Et cette femme n'était pas invitée à ce repas, mais elle s'est invitée, non pas pour jouer les pique-assiettes, mais pour recevoir la grâce de Dieu dont elle avait besoin. Et là, l'Écriture nous dit qu'elle s'est placée au pied du Seigneur. Et pendant un bon moment, comme on dit, elle a pleuré toutes les larmes de son corps, mouillant de ses larmes les pieds de Jésus, les essuyant avec ses cheveux, les couvrant de baisers et les arrosant de parfums. L'homme religieux qui avait invité le Seigneur était scandalisé par un tel comportement. Et il se disait en lui-même, mais si ce Jésus était vraiment un homme de Dieu, un prophète, il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Il ne permettrait pas qu'elle le touche. Et vous savez, Jésus sait et Jésus connaît même nos pensées. Jésus connaît nos pensées. Et il savait ce que le comportement de cette femme voulait dire. Elle n'avait pas prononcé un mot, mais ses larmes parlaient pour elle. Et au bout d'un moment, après qu'elle se soit livrée à son espèce de manège, Jésus lui dira, « Tes péchés sont pardonnés, va en paix, ta foi t'a sauvé. » Comment? Elle avait traîné son corps dans la boue. Elle s'était souillée, c'était une femme impure. N'est-ce pas? Elle faisait le trottoir, là. On la connaissait. Sa réputation était déplorable. C'était une femme, n'est-ce pas, qui avait perdu sa dignité. Mais par la parole de Jésus, par l'amour de Jésus, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Je ne sais pas quel a été votre comportement dans la vie sur le plan moral. Je ne sais pas ce que vous avez fait, ça ne me regarde pas. Dieu le sait. Mais quelle que soit la mesure de vos fautes, quelle que soit la mesure de vos péchés, eh bien, Dieu est prêt à vous faire grâce. Il pardonnera cet après-midi, comme il a pardonné autrefois à Manassé. Il pardonnera cet après-midi, comme il a pardonné à la femme pécheresse. Nous pourrions parler du brigand sur la croix. Vous savez que quand Jésus est mort, il est mort entre deux brigands. L'un d'entre eux insultait le Christ, mais l'autre reprendra son compère en lui disant, « Mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice. On reçoit ce qu'on a mérité, mon gars. On reçoit ce qu'on méritait nos crimes. Et celui-là, là, Jésus, il n'a rien fait de mal. » Et il s'adressera au Seigneur une prière brève, comme quoi souvent les prières les plus courtes sont les meilleures. « Ah, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et en réponse à la foi de cet homme, à sa foi et aussi à sa sincérité parce qu'il venait de reconnaître quel triste individu il avait été, Jésus lui dira, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Un brigand, un homme, comme on dit chez moi, de sacs et de cordes, un gibier de potence, tellement irrécupérable que la société avait jugé nécessaire de se débarrasser de lui en le crucifiant, en appliquant à son cas la peine capitale. Eh bien, celui dont les hommes ne voulaient plus, Jésus a voulu de lui. Alléluia. Peut-être au milieu de nous, y a-t-il quelqu'un à l'égard duquel certains ont tiré un trait définitif. Vous savez, un jour, je faisais une réunion dans une maison d'arrêt, une prison. Hein? Eh oui, parce que l'évangile peut être prêché partout. Alléluia. Même en prison. Et alors, il y avait là quelques gars autour de moi, et je leur disais, vous savez, pour Jésus, personne n'est irrécupérable. Il y en a un qui m'a dit, vous savez, monsieur le juge, je n'ai pas de votre avis, hein, en ce qui me concerne. Peut-être qu'on a tiré un trait sur vous. Peut-être qu'on a fait une croix sur votre vie. En disant celui-ci, en disant celle-là, on n'en sortira jamais rien de bon. Mais même si c'est le verdict des hommes, et même si quelque part il est juste et exact, Dieu peut changer tout cela. Si vous le laissez vous prendre en main, nous l'avons chanté tout à l'heure, il peut changer votre destinée. Il peut vous donner la grâce de pouvoir redémarrer dans la vie à zéro, vous entendez ? Balayer la vie passée, repartir à zéro sur une nouvelle base. Il y a des gens qui pensent que notre destin est tout tracé et qu'on ne peut pas y échapper. C'est comme ça. Les Arabes disent « Mektoum », ça veut dire « c'est écrit ». On ne peut pas échapper à sa destinée. C'est faux, mes amis. On peut changer de route. On peut changer de destin. On peut changer d'orientation. Lorsque nous laissons le Seigneur prendre notre vie en main. Alléluia. Ah, si vous voulez continuer à vivre votre vie telle que vous la concevez, vous risquez de tomber de caribe en scylla, d'aller de mal en pis. Mais si vous dites, Seigneur, je suis au bout du rouleau, j'arrive pas à m'en sortir, malgré mes efforts, malgré mes tentatives, malgré même ma bonne volonté, Seigneur, ce que je peux pas faire moi, fais-le pour moi. Il le fera, gloire à Dieu. Il le fera comme il l'a fait pour des millions et des millions. Oui, même les plus grands pécheurs. Mais enfin, je parle des plus grands pécheurs. Mais pécheurs, nous le sommes tous. Alléluia. Et nous avons tous, à ce titre, besoin du pardon de Dieu. Nous sommes tous concernés par le péché. Il ne faut pas conserver la moindre illusion. Vous savez, il y a parfois des gens qui comment dire, voudraient se mettre en marge du genre humain. Ils sont prompts à juger les autres, à montrer du doigt celui-ci, à montrer du doigt celle-là, à critiquer. Et ils estiment que, eh bien, ma foi, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Mais l'Écriture retient notre langage. Écoutez ce que dit la Bible. Elle dit qu'il n'y a sur la terre pas un homme juste qui ne pêche jamais. Il n'y a sur la terre pas un seul homme juste qui ne pêche jamais. Même l'être humain que l'on pourrait juger le plus vertueux, même la flamme la plus remarquable, même celui qui a des sentiments d'altruisme, de bonté, de miséricorde, même celui qui a une grande générosité, tous les hommes sont des pécheurs. Personne n'échappe à cette règle qui est une règle universelle. Quelle que soit notre culture, quel que soit notre niveau d'éducation, quelle que soit notre place dans la hiérarchie sociale, quelle que soit notre religion, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et si l'évangile est annoncé cet après-midi, c'est parce que nous sommes des pécheurs. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jamais dans la Bible on ne voit que l'évangile est annoncé aux anges. Vous savez pourquoi ? Parce que les anges n'ont pas péché, n'est-ce pas ? Les anges qui entourent le trône de Dieu sont sans péché. Ils n'ont pas besoin d'entendre l'évangile. Mais nous les hommes, nous les humains, qui avons désobéi à Dieu, qui avons transgressé les lois divines, nous avons besoin de recevoir le conseil de Dieu consigné dans sa parole, justement parce que nous sommes des pécheurs. Le pardon est une nécessité. Ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas quelque chose dont je peux me passer, non. Parce que le péché nous ferme la porte du ciel et nous précipite en enfer. S'il est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur a déclaré qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, il ajoute dans le même passage qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne faut pas oublier ça. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Si nous voulons être accueillis favorablement dans le ciel et échapper à l'enfer, parce que c'est de cela dont il s'agit. Je répète, si nous voulons être accueillis favorablement dans le ciel par le Dieu Tout-Puissant et échapper à l'enfer, alors il faut, avant de comparaître devant Dieu, que nos péchés aient été pardonnés. Parce que dans le ciel, rien de souillé et rien d'impur n'y entrera. Rien de souillé, ni rien d'impur, n'y entrera. Si nous nous présentons au jour du jugement avec le poids de nos péchés pesant sur notre cœur, sur notre conscience, Dieu ne pourra pas, parce qu'il est saint et parfait, nous accepter dans sa présence. Attention, attention. C'est pendant que nous sommes sur la terre que le pardon doit être reçu. Ensuite, il sera trop tard. Car l'Écriture dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un jugement définitif et sans pas, et sans appel. Non, 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 Dieu ne fermera pas les yeux sur le péché. Il y a parfois des gens qui m'ont dit, mais vous savez, Dieu est bon, il est tellement bon que, allez, il acceptera dans le ciel finalement tout le monde et n'importe qui. Non, 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 non. Ça n'est pas ainsi que ça marche. Ceux qui n'auront pas réglé au préalable cette question du péché pendant qu'il était temps, eh bien, se reverront exclus du royaume des cieux. Il ne tient pas le coupable pour innocent. D'ailleurs, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Jésus dira qu'il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Vous avez en tête ça, hein ? J'ai le Fils de l'homme, lui-même, Jésus, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Ce qui signifie en clair, c'est que c'est pendant que nous sommes sur la terre que nous pouvons bénéficier du pardon. Et laissez-moi vous dire un petit peu trivialement que lorsque nous serons sur la terre, ça sera trop tard pour recevoir le pardon. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est à l'instant qu'il faut se préoccuper de régler cette question. On ne peut pas éluder le problème en disant « on verra plus tard ». Il sera toujours temps d'y penser. Non, 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 mes amis, on ne joue pas au dé avec notre âme. On ne joue pas au jeu de hasard avec notre destinée éternelle. Moi, je veux m'inquiéter de savoir ce que je vais devenir dans l'éternité. C'est pourquoi j'ai accepté un jour Jésus comme mon sauveur. Ce qui rend le pardon possible, c'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans environ, lorsque sur la croix du calvaire, eh bien le Christ a donné sa vie. L'Écriture nous dit ceci, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort à cause de nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Christ est mort pour nos péchés. Nous pourrions dire que le péché est en quelque sorte une dette colossale que nous avons accumulée à l'égard de Dieu. Eh bien, cette dette, sachez-le, Jésus l'a payée en notre faveur en donnant sa vie sur la croix. La Bible dit qu'il est mort en rançon pour tous. On pourrait dire que le péché, c'est aussi une tache, une souillure indélébile sur notre cœur, sur notre être moral et spirituel. D'ailleurs, un verset de la Bible dit ceci, « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton péché, dit le Seigneur, resterait marqué devant moi. Mais ce que le savon de Marseille ou d'ailleurs ne peut pas faire, laver nos péchés, le sang de Jésus répandu à la croix du calvaire le peut. L'Écriture dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de tout péché. Tout au long de notre vie, vous et moi, nous avons contracté diverses souillures morales. Toutes les fois où nous avons prononcé une parole désagréable, toutes les fois où nous avons commis un acte coupable, toutes les fois même où une pensée mauvaise, un sentiment déplorable s'est manifesté dans notre esprit, dans notre cœur, eh bien notre être moral en a été souillé, marqué. Voilà, c'est ainsi et rien ne peut y être changé. Mais le sang de Jésus, le don de sa vie à la croix du calvaire, a le pouvoir suffisant pour effacer, pour pardonner. Le sang de Jésus, son Fils, dit la Bible, nous purifie de tout péché. Et nous pourrions dire encore que le péché, c'est un poids, et parfois un poids très lourd, qui pèse sur la conscience des hommes. La Bible dit que Dieu a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Il a pris à son compte la charge de nos fautes. Et là, sur la croix du calvaire, je le répète pratiquement à chaque prédication, je veux encore le dire cet après-midi, sur la croix du calvaire, Jésus a subi à ma place et à la vôtre le châtiment que nous méritions. Il a payé pour moi. Il a assumé la responsabilité de mes fautes. Moi, pécheur, j'aurais dû être maudit. Moi, pécheur, j'aurais dû être condamné. Moi, pécheur, j'aurais dû être sanctionné. Moi, pécheur, j'aurais dû être puni. Mais Jésus a pris sur lui le poids de mes fautes, le poids de mon péché, le poids de mes transgressions. Et il fut lui, le Fils de Dieu, bien qu'innocent, frappé, châtié, puni à ma place. C'est pour cela que le pardon est possible. Non pas parce que tu es un brave type, non pas parce que tu es une femme remarquable, mais parce que Christ est mort pour nous. Alors voilà, le pardon, mes amis, cet après-midi, il est à votre disposition. En voudrez-vous? Il y a au milieu de nous des gens qui, depuis un bon moment déjà, ont accepté la grâce de Dieu. Alléluia! Ils n'étaient pas pourtant meilleurs que les autres. Parfois, disons-le, pire que certains. Mais Dieu a fait grâce. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions pour recevoir le pardon divin? D'abord, la confession. La confession. La Bible dit que lorsque, dans les évangiles, les gens se rendaient en foule vers le prophète Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, l'Écriture dit que ces gens-là, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Confessant leurs péchés. Qu'est-ce que c'est que la confession? La confession, c'est l'aveu que l'on fait à Dieu et à Dieu seul de la réalité de nos fautes. Oui, j'ai péché. Oui, je reconnais, j'avoue la responsabilité qui est la mienne. Seigneur, devant toi, je te plaide coupable. Je ne veux pas me trouver de circonstances atténuantes. Je ne veux pas évoquer de fausses excuses. Je ne veux pas prétendre que, après tout, eh bien oui, j'ai fait ceci, cela, le reste, c'était pas bien, mais c'est pas tout à fait de ma faute. Non. Écoutez ce que le roi David dira, parlant de son propre péché. Il dira ceci: ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Écoutez ça, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est ça la confession. C'est ça. Et chers amis, avec tout le respect que je vous dois, c'est ce que Dieu attend de vous cet après-midi. Pour vous faire grâce. Pour vous pardonner. Il n'en demande pas plus, mais il n'en demande pas moins non plus. L'aveu fait à Dieu seul de nos fautes. L'expression d'un regret profond de l'avoir offensé. Et le désir sincère aussi de changer de comportement. Eh oui, je parlais de Jean-Baptiste, le prophète. Et lorsque les gens venaient vers lui, et après avoir confessé leurs péchés, prenaient le baptême, il leur disait: maintenant, mes amis, produisez du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans votre vie un changement radical. Il faut que vous changiez de comportement, que vous changiez d'orientation. Il faut qu'il y ait ce bouleversement intérieur. Seigneur, je ne veux plus vivre comme j'ai vécu jusque-là. Je veux renoncer à ce qui a fait ma culpabilité, à ce qui a fait ma honte, à ce qui m'a souillé, perverti. Je veux renoncer, je veux abandonner ces mauvaises pratiques et je veux apprendre à faire ta volonté. La confession et puis la foi aussi. La foi tout simplement. Tout à l'heure, nous avons commencé notre lecture avec ce texte où il est dit que Jésus, voyant quoi? Leur foi. Dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus ne s'est pas inquiété de savoir si cet homme, eh bien, avait des qualités morales hors du commun. Simplement, il a perçu dans son cœur et dans le cœur de ses collègues qu'il avait amené devant lui la foi. Jésus, voyant leur foi, dit à cet homme: tes péchés sont pardonnés. La foi, tout simplement. Laissez-vous convaincre que l'œuvre de Jésus donnant sa vie pour vous, mourant à cause de vos péchés sur la croix, cette œuvre-là est parfaitement suffisante pour que vous soyez pardonnés. Ah, on pourrait dire, mais est-ce possible? Est-ce possible? Alors il suffit que je fasse confiance. Il suffit que j'appelle Dieu à mon aide, à mon secours. Il suffit que je lui dise pardon, Seigneur. Il suffit pour que je reçoive la grâce de Dieu, parce que, paraît-il, le Christ a donné sa vie il y a 2000 ans pour moi sur la croix. Oui, il suffit. Et si vous le croyez simplement, cela devient réalité pour vous. Alléluia. Et le pardon est effectif dès ce moment. Qui voudra cet après-midi recevoir le pardon de ses péchés? Qui voudra s'inquiéter de recevoir la grâce? C'est possible. Dès maintenant, Dieu y est disposé. Il ne nous fait pas attendre. Dieu ne nous dit pas, mon ami, je vais réfléchir. Je vais réunir mon conseil angélique. Je vais convoquer le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Et puis nous allons discuter de la question. Et nous allons examiner si oui ou non nous allons t'accorder le pardon de nos péchés. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Sur le champ, lorsqu'un pécheur du fond de son cœur implore la miséricorde de Dieu et met sa foi dans l'efficacité du sacrifice de Jésus, sur le champ, le péché est effacé. Tout est pardonné. Tout est purifié. Tout est effacé. Dieu y est disposé à vous accorder ce pardon. Êtes-vous disposé, vous, à le recevoir? Va-t-il cet après-midi quelqu'un d'intelligent? Je fais appel à votre intelligence. Non pas seulement intelligence cérébrale, intelligence spirituelle. Pour que vous puissiez comprendre que vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu, de faire la paix avec lui, que vous n'avez que trop tardé jusque-là, et que maintenant, il est temps de s'approcher de lui et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes. Fais-le. Et il le fait dans son amour, dans sa grâce. C'est son désir le plus cher, vous savez. Dieu dit dans sa parole ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure, ce n'est pas qu'il soit perdu, ce n'est pas qu'il soit condamné, c'est qu'il change de conduite, c'est qu'il se repente, c'est qu'il croit, c'est qu'il vive. Dieu veut le faire pour vous, et si vous y êtes disposé, eh bien c'est l'œuvre qu'il accomplira. Je finis en notant ceci, c'est que Dieu, si Dieu se préoccupe prioritairement, nous l'avons dit tout à l'heure, que nous recevions le pardon de nos péchés, il ne se désintéresse pas des autres problèmes. C'est pourquoi, dans le texte qui nous occupe cet après-midi, nous remarquons qu'après avoir pardonné cet homme, Jésus l'a également miraculeusement guéri. Alléluia. Avez-vous besoin de guérison? Avez-vous besoin du secours de Dieu dans votre santé, dans vos affaires, dans votre famille? Dieu est disposé à vous venir en aide, à vous accorder son secours, sa bénédiction, parce qu'il est plein d'amour. Je vous invite à vous recueillir avec moi quelques instants. Dieu soit béni. Notre Dieu, merci pour ta parole.